Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, retraite, un casse-tête français. À quoi ressemblera la prochaine réforme des retraites? Réponse à la fin de l'été pour des effets qui devraient se faire sentir concrètement à partir de 2025. Cette semaine s'achèvent les discussions entre le haut commissaire en charge de cette réforme, Jean-Paul Delevoye, et les partenaires sociaux. Au mois d'octobre, le même Jean-Paul Delevoye avait fixé quelques grandes lignes. Pas question de toucher au principe de la répartition qui veut que les cotisations des actifs financent les pensions des retraités. Pas question non plus de revenir sur l'âge légal de départ à la retraite, à savoir 62 ans. Par contre, l'objectif est de remplacer les 42 régimes existants par un seul régime dit universel et de mettre en place un système par points plutôt que de calculer en fonction du nombre des trimestres acquis. Alors en 2014, déjà, les retraites avaient été réformées, comme en 2010, en 2003, en 1993, chacune de ces réformes ne parvenant manifestement pas à épuiser le sujet durablement. Alors y aurait-il une spécificité française en la matière? Nos voisins sont-ils confrontés aux mêmes défis? Et y répondent-ils de la même manière? Retraite, un casse-tête français. Voilà, c'est le sujet du soir, en compagnie de trois invités. Catherine Perret, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes syndicaliste, vous êtes secrétaire confédérale de la CGT, vous y êtes en charge des retraites et de la protection sociale. Vous participez donc aux discussions avec Jean-Paul Delevoye. Pour discuter avec vous, Nicolas Marquez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, directeur général de l'Institut Molinari, qui est un think tank qui réfléchit aux questions économiques. Et vous êtes spécialiste des questions de finances publiques et de protection sociale. Et puis, troisième invité, Hervé Boulol, bonsoir. Économiste également, responsable retraite et vieillissement démographique à la direction de l'emploi et des affaires sociales de l'OCDE. L'OCDE qui compte notamment les pays de l'Union européenne, mais au total 36 pays membres. Alors c'est à vous que je voudrais poser la première question, Hervé Boulol, mais elle vaut aussi pour nos deux autres invités. J'évoquais les années des dernières réformes. J'en ai peut-être d'ailleurs oublié, mais je suis parti de 1993, 2003. Il y en a eu une en 2007, 2010, 2014 et bientôt 2019, enfin 2018-2019, elle devrait être votée l'année prochaine. Pourquoi réformer aussi souvent en France notre système de retraite? Est-ce que c'est parce que les réformes qui sont menées sont toujours insuffisantes? Ou bien est-ce que c'est aussi peut-être parce que c'est une forme de marqueur politique? C'est-à-dire chaque gouvernement, pour marquer son passage, a besoin de faire sa propre réforme des retraites?
Non, alors et là, je ne crois pas. Alors c'est vrai qu'il y a des défis qui sont partagés par l'ensemble des pays, c'est-à-dire que toutes les populations de chaque pays vieillissent à des rythmes très différents, mais vieillissent, donc ça c'est un trait commun. Et justement, ce qui va à l'encontre, entre guillemets, de ce que vous venez de dire, c'est que partout, les réformes de retraite qui visent, ce qui était le cas depuis maintenant trois décennies, à améliorer la viabilité financière du système, sont impopulaires. Donc les décideurs politiques ont plutôt tendance à les éviter. La particularité de la France...
C'est pas le cas de la France, hein. Alors, la particularité de la France,
justement, c'est que, effectivement, c'est un domaine où, entre guillemets, on s'est réformé, puisqu'on a réformé un certain nombre de fois, mais en même temps, ça signifie que ça met le doigt sur un problème particulier de la France, qui est qu'on a un système très très éclaté, les 42 régimes, extrêmement complexe, et donc le problème d'une réforme, c'est qu'elle n'a qu'un effet partiel, elle ne touche qu'à un bout de l'ensemble du système. Et donc on est obligé de multiplier toutes ces réformes, parce que simplement chaque réforme n'a qu'un effet partiel. Et donc ça, c'est une particularité de la France d'avoir à cumuler toutes ces réformes.
Est-ce que vous partagez cette analyse, Catherine Perret? Quand on est comme vous en charge des retraites à la CGT, je ne sais pas depuis combien d'années vous le faites, mais en tout cas, j'imagine qu'on ne s'ennuie pas, puisque régulièrement, on est amené à négocier sur cette question.
Alors oui, vous l'avez rappelé, en France, il y a eu beaucoup de réformes. Elles ont toutes pour point commun d'avoir été des réformes paramétriques, c'est-à-dire des réformes qui touchent soit au report de l'âge de légal de la retraite, soit l'allongement de durée de cotisation pour avoir une retraite à taux plein. Mais c'est pas une spécificité française, loin de là. En Allemagne, par exemple, on en est, je crois, à la 40e réforme des retraites. Et je crois que la situation n'est pas brillante, d'ailleurs, pour une partie.
40e depuis quand?
Depuis une vingtaine ou une trentaine d'années?
Je sais pas.
Je crois que c'est une vingtaine d'années. Ça a été...
Alors c'est peut-être lié à la structure fédérale du pays qui fait qu'il y a peut-être plusieurs...
Oui, puis il y a eu la réunification quand même. Il y a eu la réunification, donc il y a des problèmes spécifiques relatifs à l'Allemagne de l'Est, bien sûr.
Mais bon, on pourrait prendre d'autres exemples. La Suède, par exemple, qui a fait une réforme depuis longtemps maintenant, elle est en train de retravailler une réforme, y compris bien qu'elle ait un régime notionnel, de report à nouveau de l'âge de départ de la retraite. Le point commun de toutes ces réformes en Europe, c'est, vous l'avez dit, monsieur, c'est des considérations financières. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'elles sont impopulaires, les réformes en Europe d'ailleurs ou en France, c'est parce que on voit ça sous le prisme d'un équilibre financier, et c'est le cas du projet de réforme de Levoix, c'est faire baisser le pourcentage des richesses consacrées aux retraites. Aujourd'hui en France, c'est 13,8% du PIB. Il y a une volonté, et sous l'égide de l'ensemble de l'Union européenne, de faire tomber ce pourcentage à 11% du PIB, et donc automatiquement, évidemment, on veut jouer sur le niveau des pensions et sur le recul de l'âge de retraite, mais on en reparlera. C'est pour ça que, pour nous, ce projet de retraite, ce projet de réforme, il va créer beaucoup de perdants.
On va en reparler en effet, mais je termine mon premier tour de table, Nicolas Marquez, sur la spécificité française liée à cette succession de réformes depuis 25 ans environ.
Oui. Je dirais que la spécificité, c'est qu'on ne réforme qu'une chose, c'est la répartition. La répartition, c'est le mode de financement prégnant des retraites en France. Hein, c'est 98% des retraites qui sont versées.
Alors, faut rappeler le système de répartition. Ce sont les actifs qui cotisent pour les pensions des retraités.
Exactement, Hervé. Les actifs cotisent pour les pensions des retraités. Et en plus, pour qu'ils aient envie de cotiser, on leur dit, mais par ailleurs, vous, quand vous partirez à la retraite, vos cotisations auront créé des droits qui ne sont en fait pas provisionnés, on n'a pas mis d'épargne de côté, et on espère que dans 30 ou 40 ans, il y aura encore des actifs pour honorer ces promesses. Et en France, on réforme dans ce sens depuis des décennies. Notre particularité, c'est qu'on ne réforme que ça, on ne cherche pas proactivement à développer le deuxième pilier, qui est le pilier d'épargne par capitalisation. Il y a toute une série de solutions qui existent en France, mais elles restent aujourd'hui marginales. Et tant qu'on se contentera de concevoir la retraite avec des répartitions, la répartition, compte tenu de la démographie, on sera obligé de faire les réformes que Catherine critiquait, c'est-à-dire reporter l'âge de la retraite, allonger la durée de cotisation. Tant qu'on ne touchera pas le moteur qui permet de financer les retraites, on est condamné à faire des jeux de répartition pour répartir la pénurie plus ou moins équitablement entre les retraités.
Que je comprenne bien ce que vous dites, Nicolas Marquez, c'est que il est consubstantiel au système par répartition de devoir être ajusté très régulièrement parce que les évolutions démographiques font qu'il faut ajuster entre le nombre d'actifs et le nombre de retraités, c'est ça? Donc tant qu'on a un système qui est majoritairement par répartition, il y a forcément des réformes qui arrivent régulièrement?
Il y a forcément des réformes parce que notre système par répartition, il a été conçu dans les années 50 avec une démographie très favorable. Il y avait de plus en plus de personnes qui rentraient sur le marché du travail. Ça permettait, avec des cotisations faibles, de distribuer à l'époque des retraites faibles et puis de les faire monter en puissance. Aujourd'hui, la démographie a radicalement changé, on sait que c'est un phénomène durable, et donc la répartition est économiquement moins intéressante, d'où toutes les inquiétudes sur les équilibres financiers. On pourrait même dire qu'on est sorti de la répartition pendant une dizaine d'années, puisqu'on a financé une partie de nos retraites par de la dette. D'où la réforme proposé par le gouvernement, qui en fait ne fait que répartir la pénurie différemment pour éviter que les déficits réapparaissent.
Alors j'aimerais savoir si Hervé Boulol et Catherine Perret sont d'accord avec vous. Hervé Boulol.
Alors non, pas tout à fait, parce que il n'y a pas de ce qu'on appelle de free lunch, quelque chose de tour de magie par la capitalisation, de fait de créer un système par capitalisation où une partie ne crée pas de la valeur en soi. Il peut y avoir des avantages à mêler répartition et capitalisation pour diversifier les risques, par exemple, mais c'est pas une solution magique, en tout cas. Et les systèmes par capitalisation font aussi face à des défis liés au vieillissement. Le fait d'avoir à financer l'allongement de la durée de vie, les problèmes sont assez similaires pour la capitalisation que pour la répartition. Donc c'est un point sur le jeu que je voudrais nuancer. L'autre point, c'est par rapport au niveau des dépenses. C'est vrai que la France dépense beaucoup en termes de système de retraite, dépense public pour nous, mais lorsqu'on prend public ou privé, tout confondu, ça change pas le diagnostic. On est le troisième pays de l'OCDE en termes de montant de dépenses relativement au PIB. Il n'y a que la Grèce et l'Italie qui dépensent plus que la France. Mais, il ne me semble pas que c'est l'objectif, en tout cas c'est pas annoncé tel quel, du haut commissaire de réduire les dépenses. Au contraire, il à chaque fois signale que c'est censé être une réforme à volet de dépenses constant. Et deuxièmement, la commission, donc, la Commission européenne n'impose pas du tout ou n'a pas de préconisation pour baisser le niveau de dépenses relativement au produit intérieur brut. Il y a simplement des contraintes liées à ce qu'on a le pacte de stabilité qui est de gestion financière, donc d'équilibre budgétaire à long terme, de viabilité financière du système.
La Commission européenne donne quand même des recommandations. Alors, il y en a une qui est citée dans un article récent de l'Humanité, qui est celle-ci, comme recommandation. L'alignement des différents régimes des secteurs publics et privés pourrait réduire de plus de 5 milliards d'euros les dépenses publiques d'ici 2022. Donc il y a bien quand même une dimension budgétaire dans les préconisations.
Oui, non, mais c'est pas l'objectif. C'est-à-dire que si on imagine qu'effectivement on a des systèmes où, en termes de gestion, il y a des coûts de gestion importants parce qu'on multiplie les 42 systèmes, même si c'est pas l'objectif numéro un, on imagine bien qu'on va faire des gains à terme. Il y a des aspects de transition, mais à long terme, il y a des gains qui sont générés dans la gestion administrative de ces systèmes. On le voit même sur Agirc-Arrco. Agirc-Arrco fusionne, pourquoi ?
Ce sont les régimes complémentaires.
Les régimes complémentaires qui étaient différents jusqu'en janvier 2019, ils fusionnent pour engendrer des gains dans la gestion. Donc, même si ce n'est pas l'objectif total, si on a ce système qui est aussi fragmenté, lorsqu'on va vers quelque chose de plus universel, on doit engendrer des gains, des économies de gestion.
Catherine Perret.
Alors, sur les questions de financement, avec Nicolas, je n'ai qu'un seul point d'accord. C'est qu'effectivement, comme il y a de plus en plus de retraités demain, y compris en France, on va augmenter d'ici 2050 de manière importante le nombre de retraités qui vont devoir être bénéficiaires d'une retraite par répartition et solidaire. Il faut effectivement poser sur la table la question de l'augmentation du financement. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous, notre organisation, la CGT, on a mis sur la table cette question-là en disant, si on veut répondre aux besoins en améliorant le niveau des prestations dans le cadre d'un système solidaire, il faut effectivement augmenter les cotisations et augmenter le financement qui est dévolu à la retraite. Et pour cela, on a un certain nombre de propositions importantes. D'abord, vous savez, la retraite, c'est très lié au travail. Et donc, nous, on met sur la table la question de la politique de l'emploi, du nombre d'emplois soumis à cotisation sociale qui est pas suffisante dans le pays. Je rappelle quand même aujourd'hui qu'un Français sur deux qui liquide sa retraite n'est plus en emploi et on voudrait le faire travailler plus longtemps alors qu'il est soit à l'assurance chômage, soit en invalidité, soit aux minima sociaux. Donc il y a bien un problème d'emploi, il y a un problème de répartition des richesses, parce que certes il y a besoin de plus de financement, mais quand on a construit ce système de retraite solidaire, la différence entre l'argent qui va au capital et l'argent qui va au travail n'était pas aussi déséquilibrée, et nous on pense à la CGT que pour répondre justement aux besoins des retraités, il faut rééquilibrer ce rapport. Un dernier élément, on parle beaucoup en ce moment de l'évasion fiscale, entre 80 et 100 milliards d'euros liés à l'évasion fiscale. Si on en prenait un petit peu plus pour récupérer cet argent-là pour les retraites, je pense qu'on pourrait faire une bonne réforme, parce que, y compris le système actuel, est très injuste, et beaucoup, notamment de femmes, vivent quasiment au niveau du seuil de pauvreté quand elles sont à la retraite, alors qu'elles ont travaillé toute leur vie.
Juste avant de redonner la parole à Nicolas Marquez, je refais un petit détour par l'OCDE avec vous, Hervé Boulol, puisque vous avez évoqué, Catherine Perret, la question du niveau des cotisations. Est-ce qu'il y a des pays qui font ce choix au sein de l'OCDE d'augmenter le niveau des cotisations pour financer leur système de retraite?
Déjà, c'était quand même le cas de la France, qu'il y a des augmentations de taux de cotisation. On est à un niveau qui est relativement élevé en comparaison internationale. L'Italie a des taux de cotisation le plus élevé, de l'ordre de 33%. En France, on est à 27, 28. Enfin, après, ça dépend des niveaux de revenus, etc. Donc, on a quand même des taux de cotisation qui sont élevés. Mais Madame a raison. C'est-à-dire qu'il y a un choix démocratique qui doit être fait entre travailler plus longtemps, de bouger l'âge de la retraite, accepter un niveau de pension plus ou moins élevé, accepter des taux de cotisation plus ou moins élevés. Donc là-dessus, il y a une trilogie qui doit résulter vraiment d'un choix qui est démocratique, donc une décision qui est politique. Et de ce point de vue-là, tout est ouvert. Mais sauf le problème, c'est qu'évidemment, les gens rechignent à payer plus de cotisations parce que ça ampute leur salaire net, voudraient partir à la retraite le plus tôt possible et avoir un niveau de pension le plus élevé possible. Donc là, on a vraiment un problème de quadrature du cercle. On a du mal à concilier l'ensemble. Donc c'est bien ça le sujet. C'est pour ça qu'on est dans la question que vous posiez dans le casse-tête.
Nicolas Marques.
Et moi, personnellement, ainsi que toute l'équipe de l'Institut économique Molinari, on pense qu'effectivement, ce problème de rapport qualité-prix, il est lié au moteur de financement. Il y a toute une série de pays où il y a deux moteurs de financement. Il y a la répartition, qui a un sens, parce que ça fait une mutualité. Et puis, il y a le provisionnement, il y a la capitalisation qui a un sens, parce que contrairement à ce qu'on voyait dans les années 1910, 1920, 1930, la retraite n'est plus un risque. On sait que l'essentiel des gens qui sont sur le plateau auront la chance d'arriver à la retraite et d'en bénéficier pendant 20, 25, 30 ans. Dans les années 1910, quand on débattait en France sur les retraites, toute une série de structures, et notamment la CGT, disait ben non, la retraite, c'est pas un sujet parce que c'est la retraite pour les morts. On sait tous très bien que les ouvriers mourront avant. Maintenant, on sait tous qu'on va vivre longtemps à la retraite, d'où...
Pas tout le monde,
mais disons... Plus de 95% de la population a la chance d'y arriver et d'en bénéficier pendant des années. Et d'où l'intérêt de provisionner la retraite, de la prendre en compte à l'avance, parce que ça allège le coût de financement. Je vais vous citer un autre chiffre. En 97, Davan et Pujol, pour le Conseil d'analyse économique, avaient chiffré ce qu'il faudrait épargner pour préparer sa retraite. Et ils disaient à l'époque, il suffirait que les individus épargnent le tiers de ce qu'ils versent en répartition pour avoir la même retraite. Pourquoi ? Parce que ils vont avoir des cotisations, elles vont fructifier grâce au marché financier et on arrivera donc à avoir une retraite significative. Nous, comme on dépend exclusivement de la répartition dans un contexte de démographie faible, il faut des cotisations très élevées pour verser des retraites relativement moyennes.
Vous avez dit qu'il y avait des pays qui avaient fait le choix d'un système plus hybride, disons, oui, avec répartition et capitalisation.
Oui.
Un ou deux exemples, justement, de ces pays. Et qu'est-ce qui fait que ça fonctionnerait mieux chez eux que chez nous ?
Je vais vous donner deux exemples. Le Pays-Bas ou la Suède. Dans ces pays-là, il y a entre 200 et 180% du PIB en épargne retraite. Et mécaniquement, quand vous avez quasiment 200% du PIB, ça vous allège le coût de financement de vos retraites. Puisque les marchés financiers valorisent cette épargne et ça vous allège de plusieurs points de PIB.
Quand ils se portent bien, parce que quand ils chutent, vous perdez beaucoup quand même.
Mais le sujet, c'est la longue période, Hervé. Sur la longue période, ils se portent bien. On a tendance en France à parler des retraites par capitalisation au mauvais moment, quand il y a eu un choc, et d'oublier d'en parler quand les marchés sont repartis. Et il faut regarder les choses dans la longue période. Et on a des exemples en France. Vous regardez l'ERAFP, l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique, qui est géré en capitalisation. On sait le rendement qu'il tourne autour de 5%. On a les caisses des pharmaciens qui sont en partie gérées en capitalisation. On sait que ça fonctionne. Voilà. Et là où il y a plus de capitalisation, il y a un coût de financement allégé.
Alors Hervé Boulol et Catherine Perret veulent réagir. Hervé Boulol pour le CDE.
Simplement pour dire que on peut effectivement souhaiter avoir un système diversifié qui mêle répartition et capitalisation. On diversifie les risques politiques par rapport au marché financier, etc. Donc il y a des avantages à avoir un système qui est équilibré.
C'est la tendance d'ailleurs ça aujourd'hui.
Certains pays ont, mais alors je vais justement revenir là-dessus parce qu'il y a effectivement le cas de la Suède par exemple, du Danemark, mais il y a aussi le cas des pays d'Europe de l'Est qui ont tenté et qui se sont brûlés les doigts. C'est-à-dire que, effectivement, on peut dire, pour faire simple, le rendement du système par capitalisation pour nos cotisations sont à long terme peut-être plus élevés que le système par répartition dans une économie vieillissante, certes. Le problème, c'est, donc on a le long terme qui est là, mais comment on fait la transition ? C'est-à-dire que si on veut faire cette transition-là, ça veut dire qu'on va transférer une partie de la cotisation qui sert aujourd'hui à financer la retraite pour financer la capitalisation, les comptes privés, les fonds de pension. Mais on se prive, pendant toute cette transition, des cotisations qui financent aujourd'hui les pensions des retraités. Et donc, on met le financement du système de retraite dans le rouge, dans cette période de transition. Mais période de transition, on parle de 15, 20, 25, 30 ans. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est quelque chose de très important. Pour basculer de la répartition à la capitalisation, on se prive de recettes aujourd'hui. Ces recettes aujourd'hui, elles ont une utilité. Et les pays qui ont essayé de faire ça en Pologne, en Hongrie, en République slovaque, ils ont dû faire machine arrière, tout simplement parce que la pression budgétaire, le fait de se priver de ces recettes, était quelque chose qui n'était pas viable, en fait. Donc oui, l'objectif de long terme, idéalement, on aurait voulu se préparer, mais il n'y a pas, c'est ce que je voulais dire, il n'y a pas de baguette magique. On ne crée pas simplement de la valeur par la capitalisation. Donc on voudrait, ça peut être bien d'avoir un système qui est diversifié, mais la gestion de la transition est quelque chose de très compliqué en fait.
Épargner pour son épargne, c'est pourtant quelque chose qui peut être absolument tentant quand on voit se profiler l'arrivée de la retraite Catherine Perret, de se dire c'est peut-être pas uniquement avec le système par répartition que je vais réussir à m'en sortir, donc j'ai intérêt à épargner. Et si on a un système qui organise cette épargne, ce sera peut-être plus intéressant qu'avec ce qu'on connaît aujourd'hui, avec certains produits comme l'assurance vie, par exemple.
Alors, vous avez compris que ce n'est pas notre modèle de société à la CGT. Je vous rappelle quand même qu'on est à l'origine de la création de la sécurité sociale, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans un pays qui était quand même détruit par la guerre, où il fallait consacrer beaucoup d'argent à la reconstruction. Il y a un ministre qui s'appelle Ambroise Croizat, ministre du Travail, syndicaliste CGT, qui a lancé le rêve de créer cette sécurité sociale qui a créé donc notre système de retraite solidaire et qui a permis, à l'échelle de 30 ans, d'améliorer l'espérance de vie de l'ensemble des Français. Et c'est ça qui nous intéresse, nous, parce que, quand même, la retraite n'est plus un risque. Certes, en moyenne, aujourd'hui, on vit, je crois, en France, 27 années à la retraite. Mais il y a des gens qui vivent plus longtemps que d'autres. Il y a de très fortes inégalités. Il y a beaucoup de salariés, notamment des ouvriers, notamment des femmes, qui ont une espérance de vie tout court et une espérance de vie en bonne santé très réduite. Ça peut aller entre 15 et 20 ans de différence de vie si on prend le cas d'ouvriers qui ont des métiers très pénibles. Il se trouve...
Oui, mais il y a des dispositifs qui permettent de compenser. La pénibilité, par exemple...
Ça fonctionne pas très très bien aujourd'hui et c'est d'ailleurs pour ça que nous souhaitons qu'il y ait une réforme en profondeur là-dessus. Mais il se trouve que ces gens qui ont déjà des métiers très pénibles ont aussi les plus petits salaires. Donc je vois pas très bien comment on peut les encourager à épargner alors qu'ils n'ont déjà pas de quoi finir les fins de mois. Donc c'est pas mon projet de société. Le vrai sujet, c'est qu'en fait il faut pas énormément d'argent pour que notre système solidaire il soit viable sur du long terme. Nous à la CGT, on a calculé qu'il fallait à peu près 100 milliards d'euros d'aujourd'hui pour que d'ici 2050, le régime de retraite solidaire soit équilibré et qu'y compris il apporte des améliorations. Les économistes me corrigeront, c'est environ 1,8 point de PIB en 2050. C'est pas la mer à boire, il suffit d'une volonté politique, vous l'avez dit, monsieur.
France Culture, du grain à moudre, Hervé Gardette.
Retraite, un casse-tête français, c'est la question que nous posons ce soir à trois invités. Catherine Perret, secrétaire confédérale de la CGT en charge des retraites. Hervé Boulot, l'économiste, responsable retraite et vieillissement démographique à la direction de l'emploi et des affaires sociales de l'OCDE. Et Nicolas Marques, économiste également et directeur général de l'Institut économique Molinari. Alors je vais reprendre un document de synthèse de l'OCDE qui date de 2017, le panorama des pensions. Où se situe la France au sein justement des 38 pays de l'OCDE. Et on peut y lire notamment ceci. Le revenu moyen donc en France des plus de 65 ans est supérieur à celui de l'ensemble de la population de cette zone. L'espérance de vie à l'âge moyen de sortie du travail, c'est-à-dire quand on entre en retraite, est la plus élevée. C'est-à-dire c'est en France qu'on va avoir la retraite la plus longue. Et le taux de remplacement futur, donc je ne sais plus très bien à quelle échéance Hervé Boulol...
Quelqu'un qui rentre sur le marché du travail maintenant, on calcule.
...sera supérieur à la moyenne, à la fois dans l'Union européenne et dans l'OCDE. C'est donc, Nicolas Marques, que notre système de retraite en France est plutôt avantageux. Pourquoi faudrait-il le réformer alors que comparativement, j'aurais plutôt tendance à dire en lisant cette synthèse de l'OCDE qu'il est bien meilleur que ce qui existe à l'étranger.
J'adore cette synthèse de l'OCDE parce qu'il y a tout plein de choses, Hervé. Alors par exemple, dans la même synthèse, on voit que la richesse brute d'un salarié moyen, d'un retraité moyen, c'est 12 ans de salaire moyen en France et 17 ans aux Pays-Bas. C'est intéressant parce que on voit finalement que le rapport qualité-prix français n'est pas aussi significatif. Et le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, plus le temps passe, plus on est tributaire d'une démographie qui est faible et plus on aurait intérêt à épargner pour sa retraite. Et que finalement, on ne le dit pas en France, Alors, certains s'organisent. Hein. Avant l'émission, on parlait d'assurance vie, on parlait de toute une série de produits, les percos, les articles 83. Donc, il y a des gens qui ont compris, il y a des gens qui ont les moyens, je suis Catherine, qui s'organisent pour faire leur capitalisation, pour préparer leur complément retraite. Et puis, on a un message qui est faiblement courageux au niveau incitatif, au niveau politique, et on laisse croire à toute une série de personnes que si elles ne le font pas, ce n'est pas gênant, qu'il y aura une retraite qui sera significative, alors que les pouvoirs publics sont en train d'organiser la baisse des retraites depuis les années 90.
Mais en même temps, sur le plan démographique, Nicolas Marques, on n'est pas les plus mal placés. En tout cas, si on regarde le taux de fécondité, par exemple, la France est un des pays en Europe, en tout cas, où le taux de fécondité est le plus important. Donc, il n'y a peut-être pas autant d'urgence, finalement, à réformer que chez nos voisins.
Ça, c'est contrebalancé par le fait qu'on dépend avant tout de la répartition. Il y a des pays qui fonctionnent à l'hybride, avec de la répartition et de la capitalisation. Ils ont des retraites sur les deux piliers. Nous, on dépend avant tout de la répartition. Donc certes, on a une démographie qui n'est pas catastrophique, mais on a un choix historique qui date, Catherine le disait, des années 45, hein, qui fait qu'on est tributaire de la répartition dans un contexte démographique moins intéressant qu'auparavant.
Sur cette question du contexte démographique, Hervé Boulol, une note vient d'être publiée par l'OCDE qui concerne un des pays de l'Union européenne qui est le Portugal. Alors là, par rapport aux perspectives qui sont celles de la France, là, elles sont considérablement plus problématiques, on va dire.
Oui, absolument. C'est-à-dire que les problématiques du vieillissement démographique, elles sont communes à tous les pays de l'OCDE et même du monde entier. Mais la vitesse de vieillissement est en réalité extrêmement différente d'un pays à l'autre. On a des pays d'Europe du Sud, le Japon, qui a déjà beaucoup vieilli, la Corée, et tous les pays baltes maintenant, qui vieillissent ou vont vieillir à une vitesse très rapide. Et de l'autre côté, dans l'étude à laquelle vous faites référence, il y a aussi des pays pour lesquels la population en âge de travailler, par exemple les 20-64 ans, cette population croît à un rythme assez élevé. C'est le cas d'Israël, par exemple. Donc, on voit qu'on a vraiment eu un grand écart, en réalité, dans le rythme de vieillissement. Et la France se situe plutôt avantageusement. Certes, on a un point de départ qui a une espérance de vie plus élevée qu'ailleurs. Et ça, c'est à mettre à l'actif, évidemment, de la France. Surtout, on a un taux de fécondité qui est proche du niveau de remplacement des populations. Et qui est vraiment dans le panier haut des pays de l'OCDE. Donc ça, c'est favorable. Et c'est pour ça que la France n'a pas la même urgence, disons, face au vieillissement démographique. Mais néanmoins, le vieillissement est là. C'est-à-dire que on voit très bien que le nombre de retraités relativement au nombre de personnes en âge de travailler va augmenter de manière importante. Et d'ailleurs, dans le chiffre que vous disiez, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le système de protection des personnes de plus de 65 ans fonctionne très bien, que ça soit le revenu moyen que vous avez cité. On est les plus de 65 ans ont un revenu moyen qui est supérieur, légèrement, mais supérieur à l'ensemble de la population, ce qui est, on n'a que le Luxembourg, je crois, qui est dans ce cas-là, dans les pays de l'OCDE. Donc, aujourd'hui, oui, c'est vrai que au niveau moyen, les personnes de plus de 65 ans ont un revenu plutôt favorable, mais ce n'est pas qu'une question de moyenne. Si on regarde également les personnes qui ont un niveau de vulnérabilité, c'est-à-dire les taux de pauvreté relatifs, on a aussi des taux de pauvreté qui sont très faibles, comme le pays aux Pays-Bas, par exemple. Donc, c'est vrai que le système de protection sociale protège bien aujourd'hui en France les plus de 65 ans. Mais il faut bien voir que c'est une photographie, entre guillemets, du passé. C'est-à-dire que, d'une part, c'était le cas, mais dans un système qui n'était pas viable financièrement. Et donc, depuis 25 ans, on a eu des réformes qui permettent d'envisager l'équilibre macroéconomique sous de meilleurs jours. Mais du coup, ça veut dire que d'ici 30 ans, d'après les projections du Conseil d'orientation des retraites, eh bien, le revenu moyen des plus de 65 ans sera de l'ordre de 12% plus faible que pour l'ensemble de la population.
Donc ça va se réguler, enfin en tout cas ça va venir à un niveau à peu près équivalent à ceux des autres pays.
Équivalent à ceux des autres pays aujourd'hui, mais ceux des autres pays vont également baisser parce qu'il y a eu aussi des réformes dans ces pays-là pour améliorer la viabilité du système.
Donc peut-être que le système français va continuer à être comparativement plus avantageux que les autres. J'ai vu qu'en septembre dernier, Catherine Perret, la CGT avait organisé une journée d'études sur les retraites en Europe. Il y avait notamment, je crois, des Allemands, des Belges,
des Italiens et des Suédois.
Est-ce que le système français est un système qui intéresse justement nos voisins européens ? Est-ce que ça peut servir de référence, ou bien est-ce qu'il y a d'autres modèles sur lesquels vos partenaires syndicaux européens essaient de regarder pour peut-être s'en inspirer?
Ben d'abord, on travaille ensemble depuis pas mal d'années, tous les syndicalistes européens. On avait d'ailleurs même conseillé à M. Delevoye, quand il avait décidé de faire le tour de l'Europe pour essayer d'importer un modèle européen en France, d'aller rencontrer les syndicalistes, ce qu'il a fait. Et il est revenu en disant il n'y a aucune des réformes en Europe qui peut convenir à la France. C'était déjà à mettre au crédit de la CGT d'avoir fait percevoir qu'on ne pouvait pas importer un modèle comme ça d'Allemagne ou de Suède.
Vous étiez d'accord avec ça, justement, avec ce constat de Jean-Paul Delevoye?
Bien sûr, on était d'accord avec le fait qu'on ne pouvait pas importer un modèle sans tenir compte de l'histoire du pays, de la situation démographique, économique du pays, parce que quand même, le nerf de la guerre, il n'y a pas de problème de vieillissement immédiat en France, mais il y a un problème d'emploi. Si tous les gens qui devraient pouvoir avoir un emploi de bonne qualité, c'est-à-dire ça pose la question du salaire, ça pose la question des cotisations sociales. Évidemment qu'il n'y a pas d'autre solution du côté libéral, parce que on est sur une politique de à la fois de modération salariale et de modération des cotisations sociales. Le fait d'exonérer les cotisations sociales jusqu'à 1,7% du SMIC, c'est nocif pour la protection sociale. Et puis, on travaille trop tard, parce que les jeunes ont du mal à entrer dans l'emploi, et on est jeté hors de l'emploi bien avant la retraite, je le disais tout à l'heure. Donc, il y a ce problème d'emploi qui est majeur. Il y a le problème du temps de travail qui est posé. Nous, à la CGT, on propose de réduire le temps de travail pour que tout le monde travaille mieux, bien et tous. C'est 4,5 millions d'emplois immédiatement. Il y a la question, et j'ai envie de le mettre en exergue maintenant, il y a la question des travailleurs étrangers, et notamment des travailleurs sans papiers, qui sont nombreux en France et qui aimeraient bien pouvoir travailler de manière déclarée et payer des cotisations sociales. Ben ça, immédiatement, ça rentre dans les caisses de la Sécu. Je voudrais faire une toute petite incise mondiale quand même. Savez-vous aujourd'hui qu'on, dans le monde, il n'y a seulement qu'un humain sur trois qui bénéficie d'un système de retraite, et qu'à côté de ça, 60% des gens travaillent en travail informel. Si c'est ça qu'on veut en France, demain, faciliter le travail informel, parce qu'on n'aura plus de raison de payer des cotisations sociales, puisque derrière, il n'y aura pas de retraite, c'est pas mon modèle de société.
Vous avez dit, Catherine Perret, qu'il ne pouvait pas y avoir d'importation des réformes des systèmes de retraite étrangers, et par exemple européens, du fait de la spécificité dans chacun des pays. Est-ce que ça veut dire que ça vous paraît totalement illusoire d'imaginer à terme une harmonisation des régimes de retraite à l'échelle européenne? Alors, il faudrait peut-être d'abord commencer par harmoniser le système français avec ses 42 régimes, mais une fois que ça sera fait, si tant est que ça le soit.
Alors déjà, l'harmonisation du régime à l'intérieur de la France, moi je ne trouve pas très important et très utile, parce que quand on regarde par exemple pour deux grands systèmes, uniquement le public, la fonction publique et le privé, en fait, à qualification égale, à carrière identique, il n'y a pratiquement pas de différence au niveau des retraites. Je crois que c'est de l'ordre de 80 euros par mois, la différence entre une retraite d'un fonctionnaire et une retraite d'un salarié du privé. Donc ça ne mérite pas qu'on s'y attarde aussi longtemps.
Et à l'échelle européenne?
Alors, à l'échelle européenne, je ne pense pas qu'il y ait possibilité d'harmoniser. Et il se trouve qu'il y a une très grande variété de modèles, entre le modèle contentionnel suédois, le modèle italien qui est en train de s'écraser sur le sol parce qu'il est complètement inégal et il fonctionne pas, le modèle allemand qui n'est pas obligatoire et qui jette une partie des gens carrément, alors là, vers la capitalisation quand on le peut, parce que seule une partie des Allemands ont un régime de base, il faut le savoir aujourd'hui. Les autres, il faut qu'ils se débrouillent tout seuls. Et il y a énormément d'Allemands, vous le savez, qui ont des tout petits jobs, les mini-jobs à 450 euros par mois. Je ne vois pas comment ils peuvent faire de l'assurance-vie pour se payer une retraite plus tard. Ceux-là, ils sont condamnés à ne pas avoir de retraite.
Nicolas Marquès.
En fait, je vais revenir sur ce que vous disiez, Catherine. En fait, on a des cotisations en retraite qui sont très élevées. Hein. C'est l'essentiel des dépenses publiques en France. Hein. On a 56% du PIB en dépenses publiques. Et un quart de ça correspond à peu près aux cotisations en retraite.
C'est pas forcément un problème.
Eh ben, c'est un problème, Hervé, dans la mesure où le rapport qualité-prix de ces cotisations retraite est mal perçu. Hein. Interrogez les Français, ils ont l'impression de payer beaucoup pour des retraites faibles. C'est un problème dans la mesure où c'est financé par le travail, et donc ça pose un sujet de compétitivité. Et c'est pour ça que dans les dernières décennies, on a fait toute une série de bricolages, le CICE, les baisses de charges. Parce que finalement, avec le niveau de pression fiscale et sociale qu'on avait, on tuait de l'emploi. Et donc Catherine disait, si le chômage baissait, on aurait moins de problèmes. Mais ce chômage est la conséquence de l'importance de nos charges. Donc tout s'imbrique. Charges élevées, problèmes de compétitivité, chômage durable. Et donc,
bon, ça,
on a
c'est un peu la poule, qui de la poule ou de l'œuf.
Hein, oui, exactement. D'où l'intérêt de dire, voilà, il y a une répartition, elle existe, il est historique, il n'est pas question de la remettre en cause en France. Et pourquoi pas fusionner les régimes, même si de vous à moi, fusionner les 42 régimes en un seul, ça fera des économies, peut-être, on n'en est pas sûr. Et c'est pas ça qui va changer les retraites, c'est pas ça qui va faire qu'on aura des retraites plus intéressantes, c'est pas ça qui fera qu'on devra reculer l'âge de départ à la retraite. Et d'où la proposition de dire, voilà, on garde la répartition, mais on développe petit à petit une capitalisation pour tous. On l'a fait dans la fonction publique, hein. Souvenez-vous de l'ERAFP qui a été créé par la loi Fillon en 2003.
Alors comme je ne m'en souviens pas, dites-moi ce que c'est.
En 2003, François Fillon a créé toute une série de produits retraite, des produits individuels du type le PERP, des produits collectifs du type le PERCO, et il a dit, voilà, dans la fonction publique, on va faire un fonds de pension obligatoire, on l'appellera l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique, et c'est par capitalisation, chacun a un compte. Les sommes sont épargnées, elles sont placées sur les marchés financiers, et ça fait que finalement, à la fin, les fonctionnaires qui en bénéficient ont un complément retraite qui n'est pas exclusivement financé par leur cotisation. Il y a leur cotisation et la façon dont elles ont fructifié, donc ça allège le coût de financement.
Catherine, oui, juste oui, Catherine Perret, on n'a pas entendu.
Il y a des marchés financés, Catherine. Par l'employeur.
Et les marchés financiers.
Hervé Boulol.
Oui, juste... L'essentiel, quand même, c'est qu'il n'y a pas de modèle miracle. Donc, on peut parler de capitalisation, de répartition, de cotisation définie, de prestation définie, de points, de compte notionnel, de trimestre, de fonds de pension. Ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a fait un choix politique, que les paramètres soient correctement définis et que le système soit tel qu'on puisse résister à certains chocs démographiques économiques. Donc c'est ça le point vraiment important. Les paramètres, maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est quand même, c'est que les pays de l'OCDE, notamment, ont fait quand même, servent d'exemple dans le sens où il y a eu toute une vague de pays qui ont opté pour un système universel. C'est le Japon, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est les pays d'Europe de l'Est, c'est les pays d'Europe centrale, d'Europe du Sud.
Universel, ça veut dire les mêmes règles pour tous.
Voilà, par exemple, si on prend fonctionnaires et secteur privé, par exemple. Et donc, il faut bien voir que là-dedans, ce qui est important, c'est d'avoir un système qui est équitable, plus transparent, qui favorise la mobilité professionnelle, donc les performances économiques, globalement. C'est pas un petit enjeu, c'est quelque chose de très important. Et même si on accepte ce qu'a dit Mme Perret, les 80 euros d'écart, acceptons ce chiffre.
Entre le public et le privé.
Voilà, on voit bien donc très peu de différence, mais vous voyez bien les suspicions qui sont engendrées par la complexité actuelle du système où les gens ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, soupçonnent que tel autre groupe est mieux avantagé. Et donc, il faut mettre un terme à cette question qui empoisonne en fait le système de retraite français et qui ensuite nuit à son pilotage parce que, comme on l'a dit dès le départ, c'est très difficile de faire des réformes qui prennent l'ensemble du système en compte. Donc là, il y a un enjeu majeur qui vise vraiment à moderniser le système, à le simplifier, à améliorer la transparence et, in fine, les performances économiques.
En quelques petites secondes, Catherine Perret, dernière semaine de discussion avec le commissaire chargé de la réforme des retraites. Quels sont les enjeux de ces dernières discussions ?
Oh ben il y a quelques éléments sur justement travailler plus longtemps avec la question du cumul emploi-retraite qui va être mis sur la table cette semaine par Monsieur Delevoye. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est de pouvoir avoir enfin maintenant le projet parce que tout reste bien flou quand même. Hein, il n'a pas arbitré grand-chose encore. Et nous, on veut savoir finalement ce que les gens veulent savoir, c'est combien j'aurai à la retraite. Et est-ce que je pourrais réellement partir à l'âge légal ?
Réponse peut-être dans les prochaines semaines. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Catherine Perret, Nicolas Marquès et Hervé Boulol. Discussion que vous pourrez réécouter, télécharger sur notre site internet franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Vous pouvez également nous écrire et retrouver d'ici quelques heures des extraits vidéo. Merci à l'équipe du Grain. Virginie Leduo, Amélie Perrault, Léa Capuano, Antoine Dulster et Cyril Marchand, émission réalisée par Pierre Legras avec à la prise de son Pascal Baudin.